Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons Bill Pearl de nouveau pour la troisième fois et cette fois, non pas pour la parution d'un livre, mais pour un scénario qu'il écrit en vue d'une série ou d'un film à venir. Alors, pour nos auditeurs, tout de suite, je vais dire que je vais me livrer à un exercice de haute voltige, car je vais faire la traduction. Je vais poser les questions en anglais et en français, ou bien en français et en anglais, enfin, nous verrons bien. Voilà, en tout cas, déjà, bonjour Bill.
Bonjour.
Nous avons également sur le plateau, dans le studio aujourd'hui, Thierry Detter qui était parmi nous la dernière fois pour son livre Reset et qui revient aujourd'hui aimablement pour être toujours en compagnie de Bill Pearl. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal.
Voilà, donc nous allons démarrer tout de suite et je vais commencer à poser une première question en anglais à Bill. All people on Radio Grand Ciel know you after several recordings about your novels. Bill, you just finished to write a screenplay in English. Can you speak about it? Donc, tout le monde sur Radio Grand Ciel te connaît après plusieurs enregistrements radiophoniques de tes romans. Bill, tu viens de finir d'écrire un scénario en anglais. Peux-tu en parler?
D'abord, je voudrais dire que bonjour de Floride, Pascal et Thierry, bonjour de Floride. Où il fait vraiment plus chaud qu'ici à Chartres, dans le mois de... Nous sommes en mars maintenant,
yes.
Hiver, alors. Non, c'est vrai, j'ai écrit ce scénario ici, qui est dans le studio. Et je voudrais dire que l'écriture du scénario a été une nouvelle expérience pour moi. C'est différent pour moi. C'est un type d'écriture différent. Dans un scénario, on raconte une histoire avec des images et des scènes. L'histoire est montrée et non racontée comme dans un roman. La capacité de l'acteur à habiter le personnage, le ton de la voix, l'expression du visage et les costumes informent le spectateur sans le mot écrit. C'est vraiment différent. Le réalisateur... si je prononce ça correctement, je crois que non, mais j'essaie. Alors.
Ça va.
Le décorateur, l'équipe d'éclairage et d'autres personnes ont une influence sur l'histoire. Tout doit être représenté et imaginé dans le scénario. C'est quelque chose de difficile à faire, comme j'ai appris. Alors, dans un scénario, l'intrigue doit être structurée dans une manière très précise. Plusieurs versions du scénario sont nécessaires pour y parvenir. C'est un peu comme un voyage. Alors, pour moi, cela a été une grande expérience de voir chaque version prendre forme. Pour y parvenir, j'ai travaillé avec une équipe de rédacteurs, Ellen Brock de Vermont, une femme formidable, et Madame Erin Brown de l'Université d'Emory à Boston, et avec ma sœur Deborah Pearl de Los Angeles, Californie, qui a une solide expérience de scénariste pour la télévision et le cinéma. Au fur et à mesure que vous travaillez avec votre équipe, l'intrigue devient plus précise et au fil des différentes itérations, plus complète et plus fluide. L'objectif est de peaufiner les éléments les plus importants et de les intégrer dans l'intrigue captivante et de créer un arc narratif clair. Le scénario de Corboulant, mon premier roman, reprend des personnages et certains événements du livre, mais il comporte également de nouveaux éléments et laisse de côté des situations qui fonctionnent dans un roman, mais pas dans un scénario. Cette intrigue présente une forte tension intérieure et extérieure. Il y a de la tension dans la vie personnelle de Robbie Samberg, le protagoniste, mais il y a aussi de la tension politique exogène dans la situation dans laquelle s'est retrouvé. Pour moi, cette histoire traite du fait de suivre ce que nous dit notre cœur, même dans une situation inextricable. Voilà.
Bon, c'était complet, exhaustif. Thierry, ça doit te parler, ça, parce que tu es aussi scénariste.
Oui, j'ai fait une école de scénario, puis j'ai développé quelques projets. D'ailleurs, je suis en train de encore travailler sur un projet de série. Ouais, la question de l'écriture du scénario, comment dire, c'est pas du tout intuitif. Intuitivement, on écrit des textes, des nouvelles, de la littérature, des romans. Là, chaque mot est pesé, tout doit être audio-visuel. Donc, soit on décrit des sons, soit de l'image. On décrit des actions, des dialogues, certaines intentions de ton, mais tout le reste est interdit. Donc, c'est vrai qu'en peu de mots, il faut arriver à concentrer le maximum d'informations pour que à la fin, quand le réalisateur prenne le scénario, et pour lui, le scénario, c'est comme un mode d'emploi du film. Tout soit déjà dedans. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très ciselé.
Donc ce qu'a dit Bill te parle.
Ah bah oui, tout à fait. Et puis regarde, ne serait-ce que la taille d'un roman et la taille d'un scénario. Un roman, ça va être 300-400 pages assez denses. Un scénario, tu as une centaine de pages, très aérées, et tout doit être là. Ouais.
Ok, deuxième question pour Bill. Is it important for you to make a film which is able to talk about your two books and why? Est-ce que c'est important pour toi de faire un film qui puisse parler de tes deux livres et pourquoi?
Alors, Pascal, Thierry, dans le paysage médiatique actuel, je crois qu'on raconte des histoires sous la forme de ce qu'on appelle une mini-série de 3 à 9 épisodes, comme l'auteur du mois, il s'appelle l'Américain,
Philippe Cady.
Philippe, comme il a fait avec le nouveau pièce par Amazon ou Netflix.
Ah,
Sur
ok.
Netflix, son série qui s'appelle
Ah, le maître du château.
The Man in High Tower en anglais. Alors, diffusé en streaming via Internet sur les écrans de télévision, c'est ce que l'on regarde, comme j'ai dit, sur Netflix et Amazon. Autrefois, les histoires étaient racontées en épisodes hebdomadaires sur une année entière ou plus. Mon objectif est de reprendre les intrigues de Corps Brûlant, de la suite Mission à Paris 1990, et d'un troisième livre qui j'écris actuellement, une trilogie. Alors, et de la proposer à des sociétés de production et des services de streaming pour en faire une mini-série. Et tu dois demander pourquoi. Pourquoi je fais ça? Parce que l'histoire bénéficie ainsi d'une exposition beaucoup plus étendue ce qu'elle des romans. L'audience is larger. Le retour sur investissement du temps et de l'énergie consacrée à l'écriture d'un livre est également supérieur si le livre est repris sous forme de film ou diffusé en streaming sous forme de mini-série. Et ça, c'est pourquoi.
Ok, ok. Bon, je vais continuer peut-être à questionner en anglais, mais ce n'est pas nécessaire, puisqu'en fait, tu parles très, très bien français et tu es bien en mesure d'expliciter les choses donc dans notre langue. Bon, malgré tout, c'était par convention entre nous deux l'idée de questionner en anglais, donc je vais continuer, mais bon, les auditeurs voient bien ta qualité
merci.
De pouvoir parler en français.
Avec un peu d'assistance, voilà.
Donc ensuite, ma troisième question.
Oui.
What is your idea? Do you want to film with a great company like Hollywood's majors, Paramount, Warner Bros., Universal Studios, etc., or with it the American independent studio Jim Jarmusch, for example? Quelle est ton idée? Est-ce que tu veux tourner avec une grosse entreprise d'Hollywood comme Paramount, Warner Bros., Universal Studios ou d'autres? Mm. Ou bien avec le cinéma américain indépendant, comme avec Jim Jarmusch. Je précise que j'ai dit Jim Jarmusch parce que je l'apprécie beaucoup.
Oui, oui, tu aimes ça. Alors, Pascal, Thierry, je n'ai pas de préférence en la matière. Les deux ont leurs avantages. Le but est de trouver et de réunir une équipe décidée à produire une bonne narration. Peu importe qu'elle fasse partie d'un grand studio ou d'une petite société indépendante. Je ne suis pas très connaisseur des films indépendants de Jim Jarmusch, comme toi, mais j'ai regardé et j'ai cependant remarqué que certains de ses films ont été distribués par des grands studios comme Sony, Amazon et Metro-Goldwyn-Mayer.
Ah oui, autant pour moi.
Oui, oui. Mais à ce stade, mon objectif est de trouver un agent spécialisé dans le cinéma, quelqu'un ou quelqu'une qui prenne le scénario, les deux romans et le projet du troisième et qui les présente à des studios grands ou petits et à des services de streaming pour les vendre en tant que support potentiel d'une mini-série.
Ok.
C'est mon objectif, voilà.
Ok. Très bien, nous allons faire une pause musicale.
Down to Florida, we welcome you to the Sunshine State. They're kicking back and soaking up the rays every day in Florida. I'm in Florida, the sun is setting over Tampa Bay. It's like a Caribbean holiday every day in Florida. We got shack down on South Beach, the Dolphins too. Springtime for the Yankees and the Dodger blue. Golf courses, beaches, it's easy to spot 'em. You like the Gators? Man, we got 'em down in Florida. We welcome you to the Sunshine State. A Category 5 hurricane couldn't spoil the day in Florida. It's on the East Coast, go up all the time. Ain't no place like it that you'd ever find. Bingo, shuffleboard, fishing too. You see that cat man? His hair was blue down in Florida. We welcome you to the Sunshine State. We're kicking back and soaking up the rays every day in Florida. It's like a Caribbean holiday every day in Florida.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui l'écrivain américain Bill Pearl, qui est déjà venu dans notre studio pour présenter ses deux premiers livres. Donc le premier c'était Cœur brûlant 1968 et le deuxième c'était 1990 Mission à Paris. Nous sommes également en présence de Thierry Detter qui était là lors de la dernière émission pour présenter son livre. Donc, Reset aux éditions est là. Alors, Thierry, tu partages un peu les idées de Bill en matière donc, de mise en œuvre d'un scénario pour le cinéma ou pour une série télévisée ?
Oui. En fait, ce que je trouve génial dans ces deux formes, la forme littéraire et la forme scénaristique, c'est que c'est des formes d'écriture extrêmement différentes et qui sont, à mon avis, extrêmement enrichissantes pour les auteurs. Moi, je t'avoue que je viens plutôt du scénario à la base, parce que j'ai une formation en scénario, et donc j'ai appris directement ça. Et après, je suis passé au roman. Bill Pearl, c'est le chemin inverse, j'ai l'impression. Mmh. D'abord le roman et l'écriture scénaristique.
Oui, c'est ça.
C'est très enrichissant parce que quand on est des littéraires, immédiatement la forme scénaristique elle est plus riche, le vocabulaire est plus fouillé, peut-être les émotions, la psychologie des personnages vont être plus épais. Et puis à l'inverse, quand on vient du scénario, ça veut dire que quand on passe à la forme littéraire, on impulse peut-être plus d'intrigues, peut-être plus d'images, de sons, de peps, tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que ton objectif de vendre, d'en faire une mini-série, parce que tu as un sujet qui est extrêmement fort avec tes trois bouquins. Ouais. Et le format mini-série est génial parce que ça permet déjà d'avoir une, comme tu dis, une audience extrêmement large, internationale. Et puis en même temps, ça permet de fouiller, d'adapter correctement les romans. Parce ouais. qu'adapter un roman conséquent en un film de 90 minutes, il y a toujours un petit côté frustrant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le format mini-série est complètement adapté ouais. Au roman. Et puis surtout avec toi, tes trois livres qui forment une saga, ouais. C'est un super beau projet.
Ouais. Ben justement, c'est le propos de ma quatrième question, Bill Pearl, que je vais d'abord te signifier en anglais. What happens between a novel and a screenplay? What adventure is it? Que se passe-t-il entre un roman et un scénario, hein, comme vient de l'expliciter à l'instant Thierry? De quelle aventure s'agit-il pour toi?
Alors, Pascal, Thierry, je t'invite de participer dans la réponse avec moi, parce que tu as étudié ce sujet. Comme scénariste.
Oui, on dit ça, oui.
Voilà. Mais quelle aventure s'agit-il? Une grande aventure, je crois. beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, dans un roman, on raconte une histoire. Dans un scénario, il faut la montrer. La structure est complètement différente. Le roman permet la digression, même si les éditeurs n'aiment pas trop ça du tout. Un scénario est très structuré. Et la structure de presque tous les scénarios actuellement, même si les genres sont différents, reste la même. Les intrigues des films hollywoodiens, grand public, sont tous les construits sur trois éléments de base. Les personnages, leurs désirs et des contextes difficiles. Les intrigues cinématographiques mettent en scène des héros confrontés à des obstacles a priori insurmontables dans leur effort pour atteindre des objectifs captivants. Alors, qu'il s'agisse de Clarice Starling, essayant d'arrêter Hannibal Lecter dans le film que tout le monde connaît, du Captain Miller dans Il faut sauver le soldat Ryan, ou de Billy Elliot essayant d'être admis dans une école de danse classique. Tous ces protagonistes sont confrontés à des situations très difficiles dans leur recherche de la réalisation d'un objectif bien défini. La structure de l'intrigue détermine la succession des événements qui conduisent les héros vers son objectif. Que vous écriviez une comédie romantique, un thriller à suspense, un drame historique ou une œuvre de science-fiction à gros budget, tous les films hollywoodiens à succès suivent le même structure de base. Voilà. C'est pas, tu crois que ce n'est pas bien connu dans le monde aujourd'hui, parmi ceux qui vont au cinéma, par exemple. Ce n'est pas bien connu, je crois. Mais dans un film correctement structuré, l'histoire se compose de 6 étapes de base qui sont définies par 5 moments clés d'intrigue. Non seulement ces moments pivotes sont toujours les mêmes, mais ils se situent toujours au même stade de l'histoire. Ainsi, ce qui se passe à 25% d'une comédie de 90 minutes en anglais, minutes. Voilà, ouais, sera identique à ce que se passe au même pourcentage d'une épopée de 3 heures. Ces pourcentages s'appliquent aussi bien à la durée du film qu'aux pages de scénario. C'est intéressant, ça. Quand j'ai appris ça, je pense, oh là là, c'est extraordinaire, c'est différent. Un concept un peu difficile à comprendre, mais c'est vrai. Créer une nouvelle histoire ou adapter une histoire, comme j'ai fait avec mon premier, à partir d'un roman, et les faire entrer dans ce cadre est un peu difficile. C'est vraiment une compétence spécifique. Et j'ai eu beaucoup de l'assistance pour faire ça. Beaucoup. Mais j'ai le fait. I did it. Heureusement, I did it. OK.
Bien, très bien. Donc, nous allons te poser une nouvelle question, cher Bill. En anglais, toujours, pour commencer. So, you are writing the third book about your favorite hero, Robbie Samberg. Right. Can you exceptionally explain for our auditors the main theme of your novel? Pour les auditeurs, tu écris donc le troisième livre sur ton héros préféré, oui. Robbie Samberg. Ah bon. Peux-tu exceptionnellement expliquer pour nos auditeurs le thème principal de ton roman?
Ok. Non, c'est pas possible, c'est malheureusement. Parce que c'est pas encore fait. Je suis en train de faire ça.
Okay.
Et donc, le produit, peut-être, sera vraiment différent que mes idées maintenant. Mais je peux dire, ce nouveau roman est le troisième de la trilogie. Il reprend l'histoire de l'Américain Robert Samberg et de son premier amour, Miran, une femme vietnamienne, 12 ans après la... où on les avait lésés à la fin du deuxième livre. Le deuxième livre s'est terminé en 1990. Dans le troisième livre, nous sommes à 2001. En septembre 2001.
En septembre
2001. Okay. Et l'histoire commence le 11 septembre 2001. Et je vous confie donc là... un gros indice sur le contexte historique de l'intrigue.
Ouais,
et je crois que j'arrête là parce que
bien
tu as lu les deux livres. Si tu peux discuter un peu l'histoire, je vais répondre aux questions sur les deux et peut-être partager une idée où ça va aller après. Mais ça, c'est mon je crois que ça, c'est l'indice le plus important.
Ouais.
Parce que tu te rappelles que dans le deuxième roman,
bien sûr,
il y a une histoire des premiers bombardements
bien sûr.
En 1973, je crois, de le World Trade Center. Ramzi Youssef et un groupe de terroristes a essayé de tomber les World Center comme symbole de capitalisme américain, mais ça ne marche pas,
ça a échoué.
Ça a échoué à ce moment. Et donc, ça, c'est le contexte historique du deuxième roman.
Ouais, ouais.
Alors, et dans le troisième, le contexte, c'est 11 heures plus tard. Et naturellement, ce que se passe 11 heures plus tard, le bombardement de World Trade avec des avions.
C'est ça.
Le terrorisme avec des avions. Ça. Et c'est drôle, parce que c'est pas drôle, mais c'est intéressant que les gens qui ont fait ça, ils ont appris l'expérience, ils ont étudié fly an airplane en Floride, juste pas loin que, où j'habite.
Ils ont appris à conduire, à piloter des avions en Floride.
Oui, en Floride. Pas loin de chez moi, ça se passe.
Les terroristes, tu veux dire?
Oui, ah oui, oui, oui. Ils arrivent chez nous, ils vivent dans une moyenne complètement secrète, pas des étrangers en Amérique, et ça se passe toujours. Et il a trouvé une école pour apprendre de voler des avions,
de piloter
un avion. Et ça se passe juste dessus mon nez. Moi, je trouve ça extraordinaire, mais ça se passe. C'était ça, oui.
Oui, de toute façon, dans le deuxième livre, la place du terrorisme joue un rôle très important.
Oui, oui.
Mais aussi les causalités historiques. C'est-à-dire que tu mets en évidence aussi les chaînes de causalité pour expliquer... ce qui se passe au niveau mondial, dans les tensions politiques, les tensions entre États, etc. C'est très très fort, quoi, ce que tu mets en évidence. Ok. Eh bien.
Je voudrais dire une chose ici, si j'ai le temps.
Oui, oui.
Un sujet qui m'intéresse est comment cette groupe devient adapter leur. Leurs croyances radicales comme ça. Parce qu'on n'est pas né avec des croyances, il faut avoir des expériences qui créent ça. Et j'ai découvert déjà quelques choses extrêmement intéressantes, vraiment, vraiment intéressantes. Et ça, je vais faire une petite exploration de ça, du background.
Dans ton livre.
Dans le nouveau, dans le troisième. Oui, oui, dans le troisième. Oui. Par exemple, l'homme qui a créé le plan avec des avions, je ne peux pas me rappeler son nom. Quand il est jeune, il n'aime pas du tout jouer au sport parce que c'est trop violent.
Trop violent.
Trop violent. Et comme adulte, il a créé ce plan qui a tué 3000 personnes.
Le plan, tu veux dire, le plan.
Oui, le plan pour
c'est ça.
Prendre les avions et frapper le World Trade Center et tout, 3000. Il y a des choses comme ça. Quelqu'un était comme... Même Osama Bin Laden était poète. Il a aimé poésie quand il est jeune, avant que son... Et dans l'histoire, des caractères comme ça, avoir un personnage très très fort à cause de ce qu'on a fait, mais on perd l'homme entier qui était avant ça, from childhood. Et moi, j'ai essayé de créer des caractères plus réels, plus humains que la réputation gelée après faire quelque chose comme ça. Si on peut comprendre ça.
Oui, on comprend.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est, de toute façon, c'est ta touche aussi, dans tous tes romans. Enfin, dans les deux romans, tu invites aussi le lecteur à être dans la complexité des questions historiques, par exemple. Je pense à la guerre des États-Unis contre le Vietnam, par exemple. Voilà, tu es dans le refus des choses qui sont... qui sont simplistes.
Et à cause dans le premier, en 1968, c'est le sujet très très fort, important, en Amérique, en Vietnam. L'année 68, c'était, et en France, les événements de mai en France, de Tet Offensive en Vietnam, 68, et en Amérique, bien plus que ça, l'assassination de Robert Kennedy. C'était un homme extraordinaire dans une moyenne, très très difficile. Mais bon, c'est ça.
L'assassinat de Kennedy, donc oui, c'était.
En 68, en juin. Ouais, ouais. Mais Martin Luther King, juin Robert Kennedy.
C'était un année affreux.
Ouais. En Amérique. Mm. Et même en France, avec la révolution sociale, les événements de mai, et même en Vietnam, avec le Tet Offensive, c'est une année très, très importante. Ça, c'est mon contexte historique de premier. De deuxième, à cause de l'enfant Anne, de Robbie et Miriam, qui développe des relations avec les terroristes du Moyen-Est, ça change au terrorisme à le World Trade Center qui se passe dans le deuxième et le troisième jusqu'à la deuxième attaque.
Ok. Oui. Ok. Bring it.
On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. Ooh, that's it, now honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba, Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to AMA on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, come close side. In the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur, et aujourd'hui sur le plateau Bill Pearl qui nous parle de son scénario, son screenplay, donc à propos de cette mini-série qu'il va sans doute réaliser ou mettre en œuvre donc aux États-Unis. Et puis Thierry Detter qui nous accompagne également dans cette aventure américano-française. Voilà, Bill, une nouvelle question pour toi. Would you like to translate your third book in Vietnamese language, in French too? Souhaites-tu aussi traduire ton nouveau livre, ton troisième livre, donc en vietnamien et en français aussi?
Alors, personnellement, ce n'est pas possible. Mais j'ai une équipe de traducteurs, Melting Trad à Clermont-Ferrand, une compagnie qui m'assiste. Anne Lordereau, c'est la femme qui traduit en français pour moi. Et elle s'appelle Queenie. Mais elle est une femme vietnamienne de Vietnam qui fait des traductions into Vietnamese. Dessus l'expertise de mon agent pour Vietnam qui habite à Paris. J'ai oublié le nom de mon agent. Excusez-moi, j'adore elle, elle est très très importante à moi. It escaped my brain. Je vais me rappeler, je vais dire.
Ok.
Alors, je voudrais dire que tous mes livres et mon scénario ont été traduits en français et en Vietnam dans ce moyen. Mes deux premiers livres ont été publiés en France et au Vietnam. Ils ont été auto-publié en anglais en Amérique. L'intérêt suscité en France je crois, vient du fait que le premier livre se déroule en mai 68. L'un est les événements de mai, comme j'ai dit avant. Une révolution sociale en France qui est décrite dans le livre. L'intérêt, je crois, au Vietnam vient, comme j'ai dit déjà, aussi dans l'année 68, celle de l'offensive du Tet, un tournant dans la guerre contre l'Amérique. Mais il est aussi dû au personnage exceptionnel de Mihan, le caractère Mihan, une femme farouchement indépendante, courageuse, fort déterminée et une combattante dans l'âme. Elle a pour modèle les guerrières vietnamiennes de l'Antiquité. Alors, en septembre 2022, j'ai fait une tournée au Vietnam avec mon agente, Madame Yu Constant. Merci, Yu. Et pour présenter le deuxième livre dans des universités et raconter la directrice et le personnel du musée des femmes vietnamiennes à Hanoï. J'ai également été très honoré d'être invité dans la maison du général Vo Nguyen Giap, la figure légendaire que j'ai utilisée comme modèle pour élaborer le personnage fictif de Than, le caractère Than dans les romans. Et ça, c'était un voyage que je n'oublierai pas jamais. Je n'oublierai jamais. C'était une expérience extraordinaire avec de visite au Vietnam. Voilà.
Là, on a Bill qui écrit des livres, qui les fait traduire, qui crée un scénario, qui est en route pour une mini-série. On voit la force de frappe de l'auteur américain. C'est assez stupéfiant. Qu'en penses-tu?
Ah ben, ça donne envie.
Moi, je crois que la force de frappe, c'est la phrase qui de Gaulle se sert de nucléaire, des bombes nucléaires. Force de frappe, oui. C'est moi?
Toi.
Oh non, je crois que non. Non.
Ouais, ben c'est... Enfin, alors, j'avoue, je n'ai pas encore lu les romans de Bill Pearl, malheureusement. J'espère que tu m'excuseras. Mais je trouve que ton histoire... hyper intéressant dans ce que tu racontes, la trilogie, les trois moments historiques clés. Moi, ça, enfin, oui, en plus, j'adore l'histoire, j'adore les années 60, donc j'ai très envie de plonger là-dedans. Tu as choisi trois moments clés, et puis on sent que ouais, derrière ça, il y a une mini-série qui peut être vraiment géniale, voilà, qui raconte l'histoire des États-Unis, qui raconte la France aussi en partie, qui raconte le Vietnam. Et ouais, j'ai l'impression que ça te... C'est assez fascinant, en fait. J'ai l'impression que tu vis entre deux pays, voire trois pays, en fait, perpétuellement. Et c'est toujours... je trouve ça très intéressant de voir des gens qui sont sur plusieurs cultures, parce qu'on a chacun notre façon de penser, et donc toi, tu mélanges, en fait, différentes façons de penser, différents points de vue.
Ouais.
Et j'imagine que de ça doit émerger une grande empathie, en fait, pour les personnages, pour les différents... Comment tu construis tes histoires. Donc, ouais, moi, ça me donne très envie de me plonger là-dedans.
Merci.
Donc, une septième question. Je ne vais peut-être pas la lire en anglais, puisque tu comprends vraiment très, très bien. Ouais. Donc, pourquoi c'est si important pour toi, ces relations, justement, là, ce que vient de dire, en fait, Thierry. Pourquoi c'est si important, ces relations avec les Français, les Vietnamiens? Tu as fait beaucoup de voyages dans ces deux pays pendant longtemps. Et donc, cela doit avoir un certain sens. Mais lequel?
Alors, Pascal, j'ai visité la France et le Vietnam pour faire des recherches pour les deux livres. Un roman historique, dans mon avis, doit être conforme à son contexte, non seulement sur le plan factuel, mais aussi sur le plan culturel. Les décors et les personnages doivent avoir l'air réel. Il faut viser l'authenticité.
L'authenticité.
Oui, l'authenticité, voilà. Il s'agit de créer des personnages crédibles qui sont aux prises avec des difficultés de la vie. Et donc, j'ai visité tous les sites où se déroule l'histoire au Vietnam et en France. Je suis également tombé amoureux de Paris, lorsque j'y étais étudiant en 1968 moi-même. Et c'est ce qui m'a incité à écrire le premier livre. Ainsi que ma passion pour l'histoire et la politique et ma forte opposition à la guerre du Vietnam américain, l'histoire de Robbie actuellement, comme dans votre, le caractère dans votre livre, et aussi en partie de la mienne, mon histoire aussi. Moi, je me suis fortement opposé à la politique de mon pays à l'époque. En 68, je lisais toutes les publications sur le Vietnam que je pouvais trouver, comme le caractère Robbie dans le premier roman. J'ai écrit contre la guerre et les dénoncé, comme fait Robbie dans le premier roman. Et cela m'a amené à avoir un profond respect pour la résilience et le dévouement du peuple vietnamien qui a lutté pour son indépendance contre la France en le 19e et 20e siècle et puis contre l'Amérique jusque le dernier hélicoptère décolle du toit de l'ambassade américaine en 1975, je crois. C'est 75, voilà. Et donc, pour moi, j'ai appris beaucoup, mais pour moi, la culture du Vietnam, c'est aussi la réconciliation. J'ai visité le Vietnam pour la première fois en 2017 pour la recherche et j'ai ressenti la chaleur de son peuple malgré les actes de guerre commis par mon pays 40 ans auparavant. Alors, il fallait au moment que je créais le personnage adulte de Mian. Dans le premier livre, elle était teenager, jeune femme, et dans le deuxième, elle est adulte, c'est 22 ans après, une femme vietnamienne, comme j'ai dit, qui serait la protagoniste du deuxième roman. Et j'ai visité à ce moment, pour la première fois, le musée des femmes pour faire des recherches. Et ça, cette expérience m'a ouvert les yeux et le corps sur le sens de la réconciliation, qui est un thème du deuxième roman. Je suis allé devant le mur des photos des mères héroïques du Vietnam, des mères qui ont perdu leur mari, leur fils, leur fille, pendant la guerre. Et j'ai pleuré pour elles, pour les pertes qu'elles ont subies dans le combat pour la réunification de leur patrie. C'était là 50 000 femmes inconnues dans mon pays, se sont sacrifiées pour vaincre la puissance militaire de la nation la plus puissante et la plus avancée technologiquement d'Occident, Amérique, pendant cette guerre. C'est une histoire qui, moi, je crois, qui traverse les générations et j'ai voulu créer le personnage d'une femme vietnamienne moderne qui incarne cette bravoure et cet esprit de sacrifice dans mon roman. Une femme moderne, mais dans le vin des sœurs Trong qui, dans l'Antiquité, ont combattu contre les Chinois et les autres qui ont dans une battle, comment dire, battle entre Vietnam et Chine.
Bataille.
Des batailles dans l'Antiquité. Alors, nous vivons un moment maintenant de l'histoire, je crois, où on prend davantage conscience des droits des femmes. Cela concerne le monde entier, je crois, et l'Est comme l'Ouest, Est comme l'Ouest. Et c'est un mouvement déterminant pour faire progresser, je crois, tous les cultures, pour intégrer à tous les aspects de la vie, les corps, les esprits et les forces exceptionnelles des femmes, et pour reconnaître leur contribution. Alors, Mihan, comme j'ai dit, est une femme farouchement indépendante. Elle fait voler en éclats le mythe de la femme asiatique soumise. Ses ambitions sont politiques. Elle veut devenir la première femme à être nommée à la tête du parti et présidente du Politburo. Elle est aussi une combattante, chef d'un commando secret, voilà. Et donc, dans le roman, le deuxième, elle utilise sa force pour encourager la réconciliation entre père et son fils, entre les nations et avec l'homme qu'elle aime. Elle mobilise cette force pour faire progresser l'amour et le pardon. Le pardon que j'ai ressenti lors de mes visites au Vietnam. Mmh. Voilà.
Bien. Pause et nous abordons les livres du mois.
The islands. They're the one place where you can truly be as you are. Where it doesn't matter what you've done, how you make your life, you're just there. With the sun, the sand, the sea, and the locals. Where the notion of no shoes, no shirt, no problems isn't a song title, but a way of life. My way of life. Where I feel the most alive, where I feel the most settled. When I'm not with you, the fans, out there on the road, it's where I feel really at home.
Working 6 days a week, wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away since I don't know. Ain't no better time than now for Mexico. And no shoes, no shirt, and no problem. Sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problems, no problems. Want a towel on a chair in the sand by the sea. Want to look through my shades and see you there with me. Want to soak up life for a while.
Vous êtes bien dans l'émission Un livre, un auteur dans Radio Grand Ciel et nous abordons donc les livres du mois avec un premier livre, celui de Thierry Detter qui est présent sur le plateau pour Reset aux éditions Ella. Donc, nous le disions l'émission précédente, c'est le deuxième livre de Thierry avec une tension pendant tout le livre entre questions de déterminisme, d'autodétermination, de liberté, de contrainte. Et y a une question aussi d'anticipation, de monde parallèle. C'est un livre très intéressant qui pose beaucoup de questions et qui est très contemporain dans la manière aussi d'introduire le questionnement autour des réseaux sociaux, par exemple, mais aussi les relations hommes-femmes, etc. Donc c'est un très bon livre. Je regarde Thierry en l'affirmant, donc je vous conseille à tous de vous précipiter à la librairie L'Esperluette ou ailleurs pour acheter ce très bon livre paru aux éditions Ella en 2023, Reset de Thierry Detter, et vous pouvez aussi opportunément lire le premier, Bohemia, aux mêmes éditions. Un deuxième livre, Travail, vécu et accompagnement spécialisé. Donc un livre donc en rapport avec le travail social de François Bélorger avec une préface de Stéphane Rulac qui est professeur donc en Suisse, professeur de travail social en Suisse. Donc un très bon livre sur les questions donc d'accompagnement dans les différents types de structures à vocation éducative dans la collection Éducateurs et prévention chez L'Harmattan, un livre paru également en 2023 donc de François Bélorger, Travail vécu et accompagnement spécialisé. Alors, le troisième livre du mois, eh bien, c'est Cœur brûlant.
Oh là là, oh là
Cœur brûlant de Bill Pearl, Paris 1968, paru aux éditions L'Harmattan. C'est le livre que vous devez acheter à la librairie L'Esperluette, en même temps que vous prendrez celui de Thierry Deter. Tout au long de l'émission, Bill a parlé. Il a parlé en fait du scénario sur lequel il planche actuellement, mais il a évoqué donc notamment ce premier roman. C'est vraiment un livre formidable, plein d'émotions. Comme il l'a dit, un livre aussi qui évoque des questions historiques très très importantes. Donc, je vous le conseille, Bill Pearl, Cœur brûlant, Paris, 1968, et je le montre à Thierry Deter. Voilà, et le quatrième livre, eh bien, c'est le deuxième livre de Bill Pearl, c'est Mission à Paris, 1990, donc, où on peut suivre les aventures de Robbie Samberg. C'est très intéressant parce qu'on reprend les mêmes personnages et on va un peu plus loin avec eux. On les suit dans des situations qui sont difficiles, ouais. Qu'il s'agisse de questions familiales, ouais. De relations parents-enfants et notamment père-fils. Mais ça pose aussi des questions liées à l'émergence du terrorisme sur la scène internationale. Ouais. Ça pose des questions aussi historiques et relationnelles entre deux pays, les États-Unis et le Vietnam. Ouais. Donc c'est un très bon livre. Je le montre également à Thierry. Voilà, c'était donc c'était ma sélection pour les livres du mois. Et donc, après la pause musicale, nous allons conclure notre émission. Anybody here, pass me a beer, and I'ma keep playing this music that you hear. And if you know the song, then come and sing along with me. Walking with the beach to my left, seat to my right, and I'ma get faded at the tiki bar tonight. Then I'ma rolling up like my name is Bob. Yeah, I'm gonna party like I'm a Jamaican. If you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding. Lose track of your timing. Grab a drink beside me. Down in the islands, down in the islands. Could anybody here pass me the rum? Find somebody who can play the steel drums. And if you like this beat, then everybody dance with me. We got the ladies to the left, fellas to the right, and everybody's faded at the tiki bar tonight. And we are gonna dance to the rhythm of the waves while we drink Bacardi by the bonfire flames. If you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel et nous concluons cette émission d'un livre un auteur avec Bill Pearl aujourd'hui qui nous a présenté le scénario sur lequel il travaille en vue d'une mini-série sans doute peut-être sur Netflix, que sais-je. Donc Bill, qu'as-tu envie de dire au terme de cette émission?
Alors d'abord je voudrais dire merci encore, grand plaisir d'être ici avec vous deux. Maintenant, je travaille sur le troisième. Ça m'occupe tout le temps pour faire ça. Et aussi les traductions en français qui arrivent aujourd'hui. J'étais travaillé avec Anne Lauderer pour faire les traductions de scénarios. Et aussi en Vietnam. Et je vais présenter les deux à Paris pour essayer de trouver des opportunités pour avoir un film ou une mini-série avec les deux. Et donc, je suis très, très occupé, voilà.
On n'en doute pas. Thierry, qu'as-tu éprouvé avec cette rencontre de Bill Pearl? Qu'est-ce que tu as envie de dire au terme de cette émission?
Eh bien, j'ai été très intéressé de reparler de ces époques-là, des époques charnières dont tu parles, hein, 68, 90, 2001. Je trouve ça toujours, comme je disais tout à l'heure, hyper intéressant de voir quelqu'un qui vit entre plusieurs pays, différentes cultures, qui a différents points de vue. Et c'est vrai que j'étais en train de me redire personnellement, raconter une histoire dans le passé récent, là, de réexplorer certaines périodes qui me touchent, voilà, ça me trotte dans la tête. Parce que c'est vrai que les périodes que tu décris sont très parlantes. 90, on est un an après la chute du mur, un an avant la chute de l'URSS. Ouais. Moi, j'avais 10 ans à cette époque-là, donc je ne comprenais pas trop.
Ah oui.
Et c'est vrai que ça me donne envie de me replonger là-dedans aussi. Ouais.
Bien, bah écoute, Bill, on a été ravis de t'accueillir pour la troisième fois à Radio Grand Ciel. C'est vraiment une chance exceptionnelle. Tu nous viens de Floride avec le soleil que tu portes dans les yeux de façon si merveilleuse. Et puis... autant nous t'aimons beaucoup, autant nous aimons aussi beaucoup tes livres, qui sont si profondément humains, qui sont chargés d'émotions, mais aussi d'intelligence, qui font une grande place à la sensibilité, et qui sont aussi des livres pour la réconciliation entre les peuples. Entre les personnes, entre les familles, oui. Entre les parents et les enfants. Tu traites beaucoup de problématiques qui sont des problématiques sociales d'aujourd'hui et tu les traites avec une façon très personnelle, très, très, très émouvante.
Merci.
Donc, on y est très sensible et nous attendons, bien sûr, avec une grande impatience ton prochain livre, ton troisième livre hein, qui va clôturer donc, cette trilogie. Nous avons bien sûr hâte de le lire. Et donc merci beaucoup encore Bill d'avoir fait ce voyage jusqu'à Radio Grand Ciel pour l'émission Un Livre, Un Auteur. C'était un grand moment, comme d'habitude, et nous te souhaitons un très bon voyage en France.
Merci.
Et une bonne chance pour tous les projets que tu mets en route.
Merci. Donc, merci Pascal.
Au revoir à toi et à très bientôt à cette antenne.
Alors,
au revoir Thierry, au revoir Bill, à bientôt.
Merci, au revoir.
All he could think about was, I'm too young for this. Got my whole life ahead. Hell, I'm just a kid myself. How am I gonna raise one? All he could see were his dreams going up in smoke. So much for ditching this town and hanging out on the coast. Oh well, those plans are long gone. And he said, there goes my life, there goes my future, my everything, my it all goodbye. There goes my life. A couple years of up all night and a few thousand diapers later, that mistake he thought he made covers up the refrigerator. Oh yeah, he loves that little girl. Mama's waiting to tuck her in as she fumbles up those stairs.
She smiles back at him, dragging that teddy bear sleep tight. Blue eyes and mountains.